La porteuse de pain, deuxième partie, chapitre 11 à 15. Le père et la fille quittèrent la demeure de l'avocat. « Mon cher tuteur, » fit ce dernier en s'adressant à l'artiste. « Savez-vous ce que je viens de découvrir pendant la visite de M. Armand et de Mlle Mary ?»« Quoi ?» demanda Étienne. « Que la charmante fille du millionnaire plaide avec une chaleur plus qu'amicale la cause de mon ami Lucien. »« Je l'ai remarqué comme toi, » interrompit le peintre. « Que l'entrée de Lucien chez Paul Armand changera beaucoup de choses dans la vie de Mlle Mary, car elle l'aime, » reprit l'avocat. « Est-ce votre avis ?»« Parfaitement. » Enfin, que Lucien pourra bien l'épouser. Je ne le crois pas, répliqua froidement Étienne. Pourquoi? Pendant que vous causiez, j'observais le richissime industriel. Il paraissait contraint, embarrassé, prêt à perdre contenance. Par moments, les paroles de sa fille semblaient le mettre à la torture. De cela, que concluez-vous? Je conclus que M. Armand a d'autres idées. Il ne ressemble guère à Mlle Mary, ce bonhomme-là, certes non. Je doute très fort qu'il ait beaucoup de cœur. Il aime sa fille, cependant. Sans doute, il l'aime, mais à sa façon, et je ne suis pas du tout sûre que ce soit la bonne. Paul Armand me fait l'effet d'être un égoïste de premier ordre. Bref, il n'a pas vos sympathies. J'en conviens. Peut-être ai-je tort de formuler un jugement sur lui, ne l'ayant vu qu'une fois, mais tu sais qu'on n'est pas maître de ses impressions. Je suis l'homme du premier mouvement. Or, le premier mouvement a été tout de répulsion et les impressions sont mauvaises. Paul Armand peut être un homme intelligent, un mécanicien habile, un industriel hors ligne. Il n'est pas et ne sera jamais un homme franc. L'avenir te prouvera que j'ai raison. Sur ce, que penserais-tu d'aller faire un tour? Je penserai que j'y suis tout disposé. Les deux amis prirent leurs chapeaux, allumèrent des cigares et gagnèrent le jardin du Luxembourg. Paul Armand et sa fille étaient remontés dans le coupé qui les attendait à la porte de l'avocat. L'un et l'autre gardaient le silence. Mary était un peu confuse en songeant à l'audace des propositions adressées par elle à son père au sujet de Lucien Labroux. L'ex-contremaître se trouvait sous le coup de la surprise et de la terreur que lui avait causé la nouvelle de l'évasion de Jeanne Fortier. Jeanne Fortier libre, se disait-il. Jeanne Fortier pouvant venir à Paris, m'y rencontrer, m'y reconnaître, voilà qui constitue un danger terrible. Ainsi toujours pour moi des angoisses nouvelles. Après 21 ans, qui pouvait croire que j'en serais réduit à trembler devant Jeanne Fortier et Lucien Labroux? Si Jeanne me rencontre, pourquoi ne rencontrerait-elle pas le fils de Jules Labroux? Le hasard nous a bien mis en rapport, lui et moi. C'est le scandale qu'il rêve à défaut d'une autre vengeance. Et s'il arrivait à découvrir que Paul Armand cache Jacques Garot, l'échafaudage si laborieusement construit s'écroulerait. Je serais perdue et ma fille avec moi. Tandis que cette pensée traversait l'esprit du misérable, une sueur froide mouillait ses tempes. Il jeta sur Mary un regard craintif. La jeune fille fermait les yeux comme pour se recueillir plus complètement dans ses rêves d'avenir. L'ex-contremaître poursuivit. Cette femme sera reprise, je le crois, je l'espère. Mais si elle ne l'était pas assez tôt pour empêcher une catastrophe, si elle avait le temps de me rencontrer, de me reconnaître, de me trahir, il faut aviser. La voiture, en s'arrêtant, coupa court à ses préoccupations sinistres. Paul Armand mit pied à terre et donna la main à sa fille pour l'aider à descendre. À la crainte qu'inspirait à Jacques Garot la veuve de Pierre Fortier et le fils de Jules Labroux, se joignait une autre terreur, celle de voir arriver d'un moment à l'autre, à Paris, son prétendu cousin. Ovide Soliveau, nous le savons, lui avait écrit une lettre finissant par ces mots « Qui sait si nous ne nous reverrons pas bientôt ?» Ce « qui sait » annonçait d'une façon terriblement claire l'intention du Dijonnais de se rapprocher de l'homme dont il connaissait le mystérieux passé et qu'il pouvait exploiter à sa guise. Qu'était-il donc survenu à New York pour motiver la lettre écrite par Ovide au faux Paul Armand? Nos lecteurs n'ont aucune peine à le deviner. Resté seul maître de la fabrique et livré à lui-même, Solivo s'abandonna avec un entrain superbe à sa passion pour le jeu. Or, nous savons déjà que la chance le favorisait rarement, pour ne pas dire jamais. Les sommes considérables laissées en caisse par le gendre de James Mortimer ne tardèrent pas à se volatiliser et Ovide Solivo dut recourir à des emprunts. Il était, ou plutôt il avait été, un habile ouvrier mécanicien, mais il n'entendait rien aux affaires et manquait de l'intelligence nécessaire pour soutenir la vieille renommée de la maison et lutter victorieusement contre les concurrences. La fabrique marcha cependant d'une façon à peu près régulière pendant quelques mois, en vertu de la loi de la vitesse acquise, puis les rouages se ralentirent l'un après l'autre, tout alla mal et un prochain effondrement devint inévitable. Ovide eut assez de bon sens pour le comprendre et voulut se débarrasser à beaux deniers comptants de la fabrique croulante. Des acheteurs se présentèrent, mais en présence de la débâcle visible, ils firent des offres dérisoires. Le Dijonnais essaya de tenir bon. Une circonstance facile à prévoir le contraignit à lâcher prise. Il perdit au jeu, en une seule nuit, près de 50 000 $ sur parole. Le lendemain, il fallait payer et la caisse était vide. Solivo s'adressa à son banquier qui, déjà fort à découvert, refusa toute avance nouvelle. À n'importe quel prix, il fallait sortir de cette position. Ovide accepta les offres qu'il avait refusées 3 jours auparavant, toucha quelques fonds, paya ses dettes de jeu, remboursa son banquier et se trouva ne plus posséder que 60 000 francs. C'est à ce moment qu'il écrivit à son pseudo-cousin la lettre connue de nos lecteurs. Lorsqu'il disait que les affaires n'allaient pas, sa ruine était déjà complète et la maison passée en d'autres mains. Ceci d'ailleurs ne lui faisait point du tout envisager l'avenir sous des couleurs absolument sombres. Tant qu'il lui reste un enjeu à jeter sur le tapis vert, le joueur ne désespère jamais. « Avec 60 000 francs, je peux me refaire une fortune. Pour peu que la guigne se décide à me quitter, » pensait Ovide. À ce beau raisonnement, il ajoutait « Que m'importe d'ailleurs ? Au bout du fossé, pas de culbute. Quand il n'y en aura plus, il y en aura encore. Je pourrais bien me trouver momentanément à sec. Mais la source ne sera point tarie. Je tiens mon cher cousin d'une façon si solide que je le défie bien de se dégager. Sa caisse à lui est inépuisable, et j'y puiserai à pleine main quand il le faudra. » Soutenu par cette perspective, Ovide se remit à jouer. Pendant quelques jours, ou plutôt pendant quelques nuits, l'événement parut justifier ses prévisions. Une chance inaccoutumée le favorisait. Ses gains atteignirent bientôt le joli chiffre de 100 000 $. Grisé par ce retour de fortune, il devint audacieux et son audace le perdit. En une seule nuit disparurent non seulement ses bénéfices, mais son petit capital. Au point du jour, en sortant du tripot, il se trouva sur le pavé sans un sou. « Le moment est venu, je crois, de partir pour la France, » se dit-il. Sans perdre une heure, il vendit sa montre, quelques bijoux, réalisa la somme nécessaire pour payer son passage en seconde classe, acheta une valise, mit dans cette valise le peu de linge et d'effets qui lui restaient, y joignit une bouteille de la liqueur fournie par le Canadien Cuchillino, et grâce à laquelle il avait fait parler le faux Paul Armand, puis il s'embarqua sur un steamer transatlantique en partance pour le Havre. Tout en naviguant, il pensait « Je n'avais que des peccadilles sur la conscience, et la prescription me couvre, donc je n'ai rien à craindre, et je puis jouer contre mon cher cousin la partie que je suis sûr de gagner, mes mains étant pleines d'atouts. En me voyant, il va faire une drôle de tête. Saperlipopette, j'en ris d'avance. » Arrivé au Havre, il ne lui restait que juste l'argent nécessaire pour dîner modestement et payer un ticket de 3e classe du Havre à Paris. Le steamer était entré dans les bassins à 5 heures de l'après-midi. Ovide savait, par les journaux, que le faux Paul Armand avait repris en France son industrie et qu'il habitait un bel hôtel du quartier Monceau. Il résolut d'aller à Paris, de manière à se présenter à cet hôtel dès la première heure. En conséquence, il dîna dans une taverne de matelots et prit le train de 10 heures du soir. Le départ du Havre d'Ovide Solivo avait suivi de quelques jours la visite faite par Paul Armand et sa fille à l'avocat Georges Darrier. Depuis cette visite, il ne s'était rien passé qui fût de nature à modifier la situation respective de nos personnages. Jacques Garot, qu'obsédé d'incessantes angoisses, cherchait des distractions dans le travail. Mary attendait un moment favorable pour exécuter le projet qu'elle avait conçu. Lucien Labroux, attelé du matin au soir à sa besogne, se multipliait et donnait l'exemple de l'activité. Outre les appropriations spéciales de la mécanique au matériel des chemins de fer, on s'occupait beaucoup à Courbevoie de machines pour la navigation. Le lendemain même du jour où Ovid Soliveau montait au Havre dans le train partant pour Paris, on devait opérer le lançage d'une petite embarcation à vapeur afin d'essayer une hélice et une machine d'un modèle nouveau qui, tout en offrant un volume très restreint, donnait des résultats considérables. En rentrant chez lui le soir, le faux Paul Armand avait prié Lucien de venir le prendre à 6 heures du matin. Le fils de Jules Labroux se montrait exact et, à l'heure indiquée, il partait pour l'usine avec son patron. Ovid Soliveau comptait bien se présenter de grand matin à l'hôtel de la rue Murillo, mais grand matin pour lui ne signifiait pas avant le jour. En descendant du chemin de fer, il entra chez un de ces nombreux marchands de vin qui se trouvent aux alentours de la gare et se fit servir du pain, du fromage et un verre de vin blanc. L'extrême modicité de ses ressources ne lui permettait point de s'offrir un repas plus confortable. Il attendit ainsi le moment d'aller rendre visite à son cher cousin. Le Dijonnais n'était pas misérablement vêtu, mais le voyage avait fatigué son costume. En outre, en retombant dans la débine, Ovide avait repris ses façons débraillées d'autrefois. Bref, ses allures et sa tournure n'étaient point distinguées. Il s'en valait même de beaucoup. À 7 heures précises, il arriva rue Murillo et sonna à la petite porte de l'hôtel. Depuis sa loge, le concierge tira le cordon. Ovide poussa la porte et entra dans la cour. Debout sur le seuil de sa loge, le concierge examina d'un œil défiant ce visiteur inconnu dont la mise et le costume lui semblaient suspects. « Qu'est-ce que vous voulez ? » demanda-t-il de sa voix la plus sèche et de son air le moins engageant. Le Dijonnais prit au contraire une physionomie superlativement mielleuse et souriante. « Monsieur Paul Armand, fit-il, c'est bien ici ? » ?»«
C'est bien ici. »
« Pourrais-je le voir ?»«
À 7 heures du matin ?»
s'écria le concierge dont le visage exprima l'étonnement.
« Je sais bien qu'il est un peu trop tôt pour les convenances, mais il s'agit d'une affaire pressée, mon cher monsieur, d'une affaire très pressée. Monsieur Armand me connaît bien, il sera très content de me voir. »«
Dans tous les cas, il ne vous verra pas ici ce matin. »«
Pourquoi donc cela ?»«
Il est à son usine. »«
Allons donc, déjà ?»
Pas possible.
À 6 heures précises, il partait.
Mais il rentrera.
Sans doute.
À quelle heure?
Je n'en sais rien. Peut-être à midi, peut-être seulement ce soir.
Si vous venez pour des affaires de mécanique ou pour demander du travail, adressez-vous à l'usine. Je vous le conseille.
Où est-elle située, l'usine?
À Courbevoie, au bout de l'avenue de Neuilly. Le tramway y mène.
Merci, monsieur. Vous êtes sûr que je trouverai là Monsieur Paul Armand ?
Vous le verrez quand vous y serez.
Tout en disant ce qui précède, le concierge avait poussé le visiteur matinal jusqu'à la porte de la rue. Il la referma sur lui.
« Pas gracieux, le pipelet !»
murmura Soliveau en se trouvant sur le trottoir.
« Après tout, il avait sa consigne, cet homme. Et présentement, je ne dois pas avoir la tournure d'un ambassadeur. C'est à Jacques Garot que je veux parler, et pas à d'autres. » J'aurais pu demander à voir ma petite cousine Mary. Mais à quoi ça m'aurait-il avancé? Là-bas, à New York, elle n'avait pas l'air de m'apprécier beaucoup, cette pimbèche. Et l'absence n'a point dû me faire avancer dans ses sympathies. Du reste, mieux vaut peut-être que j'aille à l'usine à Courbevoie. Il me reste assez de monnaie pour me payer le tramway. Hop, en route.
1 heure après, il descendait de voiture et gagnait le bord de la Seine, offrant en cet endroit un aspect très animé. De grandes usines garnissant le quai découpaient sur le ciel leurs cheminées de briques que couronnait un panache de fumée. Ovide, s'adressant à un ouvrier qui passait à côté de lui, demanda « Pourriez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, l'usine Paul Armand ?» L'ouvrier, désignant de la main un endroit du quai, répondit « Plus loin, où vous voyez des bâtiments neufs.
Grand merci. » L'ouvrier passa son chemin. Ovide continua sa route. Il arriva bientôt en face d'une haute porte au fronton de laquelle se lisait en grosses lettres de cuivre ce nom, Paul Armand, et plus bas, atelier de construction.
« Diable ! » fit Ovide. « La maison est importante. Voyons l'intérieur. »
Il se dirigea vers une porte bâtarde voisine de la grande et portant l'inscription « Entrez ». Et il sonna. Cette porte s'ouvrit et comme à l'hôtel de la rue Murillo, le concierge vint au visiteur. Le dialogue suivant s'engagea.
« Qu'est-ce que vous demandez ?»«
Monsieur Paul Armand. »«
Est-ce pour de l'ouvrage ?»«
Non, c'est pour une affaire. »«
Commerciale ?»«
Non, personnelle. »
« C'est à Monsieur Paul Armand lui-même que vous voulez parler ?»«
Oui. »«
Eh bien, allez au bureau, dans le fond, à gauche. On vous renseignera. »
Ovide prit le chemin de l'endroit désigné. De loin, sur les diverses parties du corps de bâtiment de 100 mètres de longueur environ, et ne formant qu'un rez-de-chaussée couvert en ardoise, il put lire ses indications. Atelier de dessin, caisse, bureau du directeur des travaux, cabinet du directeur.
« Ici. « Je dois trouver mon homme, » se dit Ovide en lisant ce dernier index.
« Allons-y gaiement. Il me semble déjà voir sa tête. J'en ris d'avance comme une petite folle. » Et il pressa le pas. La porte du bureau était fermée. En le voyant poser la main sur le bouton de la porte, un employé s'empressa d'ouvrir et demanda.
« Est-ce bien au bureau de M. Armand que vous avez affaire ?»«
Oui, monsieur. Je désire parler à M. Armand lui-même pour affaires personnelles. »
« Alors, vous serez obligé d'attendre. Monsieur Armand est en conférence avec le directeur des travaux. »«
J'attendrai tant qu'il faudra. »«
Dans ce cas, asseyez-vous. »«
Ce n'est pas de refus. »
Ovide prit une chaise et se mit à tourner ses pouces.
Paul Armand, enfermé avec Lucien Labroux, combinait, d'accord avec ce dernier, certaines modifications de détails pour la machine essayée le matin même et dont le fonctionnement laissait à désirer. Leur entretien se prolongea pendant plus d'une demi-heure. Soliveau mit ce temps à profit pour établir son plan de campagne. Enfin, la porte du cabinet s'ouvrit. Lucien Labroux en sortit, tenant à la main des papiers. Il jeta un coup d'œil sur Ovide, puis, s'adressant au garçon de bureau, lui dit « Qu'on ne dérange pas en ce moment M. Armand, pour quelque motif que ce soit. Il travaille. » Puis il s'éloigna.
« Vous avez entendu, monsieur ?» fit l'employé. Vous allez être obligé d'attendre encore.
J'attendrai. J'ai du temps devant moi. Et Soliveau, croisant ses jambes, continua de plus belle à tourner ses pouces. Une nouvelle demi-heure s'écoula, puis un violent coup de sonnette retentit dans la pièce servant d'antichambre. Le garçon de bureau se leva vivement et se dirigea vers la porte du cabinet.
C'est votre patron qui vous sonne ?
Demanda Soliveau.
Oui, monsieur.
Dites-lui, je vous prie, que quelqu'un désire le voir pour affaires particulières.
« Votre nom, monsieur ?»«
Inutile, monsieur Armand ne me connaît pas. » Un nouveau coup de sonnette se fit entendre, plus impérieux encore que le premier. Le garçon de bureau se précipita dans le cabinet.
« Je vous ai sonné 2 fois, » fit le faux Paul Armand de fort mauvaise humeur. « N'aviez-vous donc pas entendu ?»«
Pardonnez-moi, monsieur, » répliqua l'employé, « mais j'étais arrêté par un monsieur qui désire voir monsieur pour une affaire particulière. Il attend depuis plus d'une heure. »«
Ce monsieur s'est-il nommé ?»
Je lui ai demandé son nom. Il a répondu que monsieur ne le connaissait pas.
L'ex-contremaître tendit au garçon de bureau des papiers couverts de chiffres d'écriture.
« Faites entrer, » dit-il, « et vous irez ensuite porter ceci au directeur des travaux. »
L'employé prit les papiers, gagna l'antichambre et annonça au visiteur que monsieur le directeur l'attendait. Ovide entra dans le cabinet dont il eut soin de repousser la porte. Paul Armand, occupé à refermer un coffre-fort placé entre les 2 fenêtres, lui tournait le dos. Au bruit des pas de l'arrivant, il se tourna et, devenu pâle tout à coup, poussa un cri de stupeur et d'effroi en voyant en face de lui Ovide Soliveau, campé sur ses jambes écartées, les 2 mains dans les poches, le chapeau sur la tête et la physionomie superlativement narquoise.
« Bonjour, cousin. Ça va bien, cousin ?» dit le Dijonnais en témoignant par un sourire qu'il s'attendait à l'impression produite.
« Toi ? Toi, ici ?» s'écria Jacques Garot.
« Moi-même, cousin, en personne véritable et naturelle. »«
Ah ça, mais dis donc, tu as l'air tout ébouriffé.
On croirait que ma présence t'est désagréable.
Tu ne me sautes pas au cou?
Tu ne me tends même pas la main?
Voilà une réception peu caressante, qui ne fait point honneur à ton esprit de famille. »
Paul Armand tremblait comme un fiévreux de la campagne romaine. La vue d'Ovide le terrifiait. L'arrivée de cet homme à Paris lui semblait le présage d'une catastrophe, d'un effondrement. Au bout de quelques secondes, il parvint cependant à secouer son émotion, et marchant vers le visiteur, il lui tendit la main. En même temps, il lui demandait « Pourquoi es-tu revenu en France ?»«
Parce que je ne pouvais pas rester là-bas. »«
Pourquoi es-tu ici ?»«
Pour te demander du travail, parbleu. »
Ainsi ta lettre disait vrai.
« Hélas, la maison que je t'ai laissée florissante a dégringolé avec une étonnante vitesse et ne m'appartient plus aujourd'hui. »«
Que veux-tu, mon pauvre ami ?» ajouta Soliveau en prenant une chaise et en s'asseyant.
Je n'avais pas comme toi les qualités qu'il faut pour mener une si grosse affaire.
Celle-là m'écrasait.
De plus, tu étais joueur.
De plus, j'étais joueur, comme tu le dis fort bien. Un vilain défaut, je t'assure.
Dont je reconnais mieux que personne les inconvénients, mais dont il m'est impossible de me corriger.
Et qui t'a fait engloutir en quelques mois des sommes énormes.
Parfaitement bien. Une guigne persistante, invraisemblable.
Inutile de m'adresser des reproches. Il ne me rendrait point l'argent que j'ai perdu. Je suis parti de New York avec juste le prix de mon voyage en seconde classe. Je ne possède à l'heure qu'il est que 20 sous dans ma poche et les vêtements qui sont sur mon dos, lesquels manquent un peu de fraîcheur.
Débine et compagnie, comme tu vois.
La dèche la plus corsée.
Mais je m'en moque pas mal. Je suis bien tranquille sur mon sort.
Si je suis pauvre, tu es riche.
Tu viens de faire construire une usine modèle dont on s'occupe dans le monde entier.
Tes ateliers sont magnifiques.
Tu ne peux pas suffire aux commandes.
Tu emploies un personnel considérable.
Et ici, comme en Amérique, tu auras une petite place pour ton cousin que tu aimes tant et qui te le rend si bien.
Le millionnaire frissonna de la tête aux pieds.
Une place ici, dans l'usine ? Répliqua-t-il.
C'est impossible.
Pourquoi donc ?
Demanda Ovide du ton le plus agressif.
Le faux Paul Armand hésita. Il ne pouvait répondre « Parce qu'ici se trouve le fils de l'homme assassiné par moi, et si tu vivais dans cette maison, sans cesse en rapport avec lui, il suffirait d'une imprudence de ta part, d'un mot irréfléchi, pour lui révéler le passé. »
L'ex-contremaître se taisait.
Ovide répéta.
« Pourquoi donc ?»«
Parce que je ne le veux pas, » répliqua brusquement l'industriel. « D'ailleurs, « je ne te dois rien. En Amérique, j'ai subi tes exigences. Je t'ai mis dans les mains une fortune. Est-ce ma faute si tu n'as point su la garder? Tu es ruiné, tant pis pour toi. »
« Paroles inutiles, » dit Ovide.
« Ce que tu as fait, tu devais le faire.
Si tu as subi mes exigences, c'est qu'il n'existait pour toi aucun moyen de t'y soustraire. Ce que j'ai fait de mon argent ne te regarde pas, mais je suis sans le sou et cela te regarde. Tu ne consentirais jamais à laisser dans la misère un proche parent qui t'est si attaché et qui en sait si long.
Bref, tu me fais comprendre que je suis à ta merci plus que jamais. Tu me mets le couteau sur la gorge comme à New York.
Chut, le vilain mot, cousin, fit Ovide en ricanant. Je ne songe en aucune façon à te menacer. J'invoque simplement tes souvenirs.
Tu prétends me tenir dans ta dépendance pendant le reste de ma vie?
« Dame,
tu te dis, j'ai son secret. Il tremblera toujours devant moi, et la peur lui fera faire ce que je voudrais.
Eh, cousin, il pourrait bien y avoir quelque chose de cela. Trouverais-tu par hasard que je n'ai pas raison ?»«
Je trouve que ta conduite est infâme, et que tu fais de moi la victime d'un chantage odieux. » »«
Encore de gros mots.
Fis donc, l'air de France te rend singulièrement grincheux. » Tu étais plus gentil que cela en Amérique. Qu'est devenu chez toi le sentiment de la famille?
Une sourde colère envahissait Jacques Garot.
Cessons ces plaisanteries idiotes, dit-il d'une voix sifflante. Je suis moins à ta discrétion que tu ne le crois.
En vérité, cousin, et comment cela?
Oui, tu peux me perdre d'un mot. Mais à quoi ça te servirait-il?
Crois-tu que je subirais vivant un scandale?
À la première rumeur, je me ferais sauter la cervelle. Et pas un sou de ma fortune ne te reviendrait, car cette fortune appartient tout entière à ma fille. Ton intérêt est donc de me ménager. Ce que tu ferais contre moi, tu le ferais contre toi-même. »
Ovide comprit sans peine que son prétendu cousin était absolument dans le vrai. En poussant Jacques Garot au désespoir, il risquait de fermer à jamais le coffre-fort où il comptait bien puiser indéfiniment. Donc, il fallait agir par la douceur plus que par la violence et ne pas tendre la corde jusqu'à la briser. Ovide, en conséquence, changea brusquement de ton et de physionomie et reprit d'une voix mielleuse.
« Mais enfin, voyons, tu as bon cœur. Tu es tout à fait incapable de laisser un parent dans la misère.
Aussi ne t'y laisserai-je pas ?
À la bonne heure, tu me donneras un emploi ?
Non.
Que feras-tu de moi alors ?
Je te mettrai à même de vivre à ton aise.
Loin de toi ?
Oui.
Je tiens à ce que nous nous voyons le moins souvent possible.
Voilà qui n'est pas gracieux. Mais enfin, je suis bon garçon. J'imposerai silence à ma susceptibilité légitime, et de toi j'accepterai tout.
Seulement, tu me permettras bien d'aller te serrer la main à ton hôtel de la rue Murillo, et de voir ma petite cousine que j'aime à la folie, quoiqu'elle ne m'aime guère.
Plus tard.
Soit, j'attendrai ton bon plaisir.
Apprends-moi maintenant ce que tu vas faire pour moi.
Te constituer une rente.
De combien ?
De 12 000 francs.
1 000 francs par mois, dit Ovide en faisant la moue, quoiqu'il fût au fond plus satisfait qu'il ne voulait le paraître.
C'est modeste, mais il faut savoir borner ses désirs et se contenter de peu.
J'accepte donc. Seulement, je te prie de te souvenir que je n'ai pas un sou vaillant et que je dois acheter un petit mobilier, du linge, des effets, enfin ce qui me manque. Et je manque de tout.
Je vais te remettre 5 000 francs pour tes acquisitions. Et j'y joindrai le premier terme de la rente que tu toucheras tant que je vivrai.
Prendras-tu par écrit l'engagement de me payer cette rente ?
À quoi bon ? Cela me paraîtrait complètement inutile.
En effet, dit Ovide avec un sourire, je suis certain d'avance de ton exactitude. Je vais donc empocher 6 000 francs et chaque mois je viendrai toucher ici un joli billet de 1 000.
Ici ? Non, répliqua vivement l'industriel.
Où donc ?
L'argent sera remis à l'adresse que tu m'indiqueras.
Chez moi, alors, au logement que je vais louer.
Et permets-moi d'espérer que, si tu m'interdis pour le moment d'aller à ton hôtel, tu viendras bien en bon parent me serrer la main à mon domicile.
J'irai.
Donc, nous voilà d'accord.
Oui, mais souviens-toi que j'ai fait du premier coup tout ce que je pouvais faire, et que si de nouvelles exigences se manifestaient, si tu m'adressais des menaces, il nous arriverait malheur à tous deux.
Sois tranquille, répondit Ovide en riant. Je serai sage comme une image. Je vais vivre comme Jenny l'ouvrière. Le cœur content, content de peu. En bon petit rentier bien tranquille, et tu n'auras que des compliments à m'adresser à l'avenir.
Je le souhaite, fit Paul Armand qui tout bas ajouta. Plus que je ne l'espère. Ouvrant ensuite le tiroir-caisse de son bureau, il y prit une liasse de billets de banque, en détacha 6 et les tendit silencieusement à son ex-associé.
« Merci, cousin !» s'écria ce dernier en empochant le papier de la Banque de France.
« Maintenant, j'ai quelque chose à te demander.
Encore ?»«
Oh, il ne s'agit plus d'argent. »«
De quoi donc, alors ?»«
Je voudrais te prier de déjeuner avec moi, afin de fêter le verre en main notre réunion. »«
Aujourd'hui, c'est impossible. »
Pourquoi ?
Je ne suis pas libre. J'ai donné des rendez-vous qui prennent tout mon temps.
Voilà qui est fâcheux. Mais tu me promets d'accepter mon invitation un autre jour.
Quand tu auras élu domicile quelque part, oui.
Tu me feras voir ton installation.
C'est convenu.
Bons amis toujours.
Eh, tu ne te plaindras pas de moi. Je ne te dis que ça.
C'est entre nous à la vie et à la mort.
Et si par hasard tu avais besoin de moi,
songe que je suis là.
En ce moment, on frappa légèrement à la porte et le garçon de bureau se présenta.
Qu'est-ce ? Demanda l'industriel.
C'est Monsieur Lucien Labroux qui désire vous parler.
En entendant ce nom, Ovide tressaillit, et au moment où le jeune homme franchit le seuil du cabinet, il le dévora du regard.
Je me retire et vous laisse à vos occupations, Monsieur Armand. fit-il ensuite. « Je compte sur la promesse que vous avez bien voulu me faire. »«
Je ne l'oublierai point. »
Soliveau quitta le cabinet, après avoir salué d'un air de profond respect, et le faux Paul Armand resta en tête-à-tête avec Lucien.